Salut, bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 24e épisode est Edith Marie-Jouls, géographe du genre et fondatrice de l'atelier Recherche Observatoire Égalité. Dans cet épisode, on parle de son travail avec les écoles dans les cours de récréation, des toilettes et des cabanes transparentes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Edith.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, donc je suis Edith Marie-Jouls, je suis directrice d'un bureau d'études qui s'appelle LAROB, l'Atelier Recherche Observatoire Égalité, et je travaille sur la question spécifique des aménagements égalitaires à l'école et au collège et dans les espaces publics aussi.
Super. Je me demandais, quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie ?
Ah, c'est une question, c'est une belle question. Alors, en fait, cette question, elle n'est pas si facile que ça parce qu'elle pose deux questions. Elle pose à la fois la question qu'on appelle des identités d'appartenance, hein, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la manière d'appréhender l'autre être humain en particulier. Dans la question « es-tu une fille, es-tu un garçon ?» hein, et « qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon ?» et qui va peut-être fausser dès le départ et plus tard aussi finalement dans l'ensemble de sa vie la manière de se rencontrer, parce que peut-être on va penser que en me voyant comme fille, comme jeune fille et puis après comme femme et comme mère aussi, hein, que j'ai une manière de penser ou de vivre ma vie qui est conditionnée peut-être. Et en même temps, cette question, elle est intéressante parce que c'est aussi ce qui nous constitue, la manière dont on est éduqué, hein, en tant que fille, hein, les attendus qu'on a aussi en tant que jeune femme après, en tant que mère. Et donc, ces deux choses sont difficiles, en fait. Il faut les dépasser pour pouvoir se rappeler à soi, se dire ce que nous, on veut porter, en fait, comme message, quelle est notre propre identité, notre propre humanité. Qui est à la fois quelque chose un mélange de la manière dont on a été éduqué, un mélange dont la manière de rentrer en relation avec les autres, le conflit aussi probablement, le dissensus, le fait aussi de lutter contre la manière dont on est éduqué en tant que fille. Donc voilà, c'est une question qui est complexe et je pense que l'erreur sur la question des stéréotypes aussi, ça serait de penser que, par exemple, faire égale valeur ou avoir plus de valeur pour une fille, c'est justement se sortir absolument de la manière dont on perçoit le monde ou dont on nous demande peut-être dès enfant de percevoir le monde, et que faire égalité, c'est aussi pouvoir porter ses sujets à l'espace sociétal et à l'espace physique de la ville et de l'école. Voilà.
Justement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à l'école ?
C'est un peu une opportunité, voilà, parce que moi, j'étais plutôt sur des questions de politique publique. Je travaillais dans une mairie à l'époque, quand j'aborde la question de l'école. Et quand je vais faire ma thèse, en fait, je vais faire une thèse après avoir travaillé, moi, pendant longtemps sur le terrain. Une thèse que je vais soutenir à 40 ans, d'ailleurs, qui porte sur le loisir des jeunes. Et quand je commence ce travail de thèse, en 2010, j'ai une école qui m'appelle l'école de Mont-de-Marsan, l'école du Pérouate. Son directeur, Pierre Baillet, me téléphone juste en même temps et me dit, voilà, Madame Marie-Jouls, on sait que vous travaillez sur ces sujets, vous allez entamer une thèse sur la question du loisir des jeunes et on aimerait que vous veniez nous accompagner sur l'école. Notre école à nous, pour travailler la question de la relation fille-garçon, de la mixité, sur un projet en fait d'école égalitaire. Et moi, je comprends, d'abord, je saisis l'opportunité parce que je trouve que en fait, on revient pas à l'école. Enfin, aller à l'école, c'est compliqué. Soit on est enseignant, enseignante, soit on fait partie de l'équipe éducative, mais rentrer dans une école depuis l'extérieur, même quand on est chercheuse, c'est compliqué. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et je comprends très vite que c'est un micro-espace sociétal aussi qui dit quelque chose, hein, de la relation. De l'entrée en relation fille-garçon, c'est aussi un espace de loisirs, l'école. Donc, c'était intéressant d'y aller. Et puis, c'était un challenge pour moi. Donc, je commence là. Et puis, très vite, ça va me passionner. Je vais comprendre plein de choses. Après, ce sujet-là, qui finalement est une toute petite partie de ma réflexion à ce moment-là, va être portée aussi médiatiquement, de manière aussi un peu universitaire. Donc du coup, ben voilà, je vais continuer.
Là, tu nous parles d'une école qui a fait appel à toi, mais d'après toi, quelle place actuellement est là la question de l'égalité des genres dans le monde scolaire?
Pour moi, c'est la place centrale, en fait. Hein, je l'explique aussi beaucoup dans mes travaux. Moi, maintenant, ça fait 15 ans que je travaille sur les espaces scolaires. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. Donc, la première, c'est que ce qu'on mesure peu et ce qu'on voit peu quand on commence à s'intéresser à ces sujets, c'est que l'école, donc maternelle, même s'ils sont plus petits, mais c'est quand même, ça reste quand même intéressant, élémentaire et collège, ce sont les seuls moments, en fait, dans la vie d'un être humain en France où il y a ce qu'on appelle une parité captive, c'est-à-dire que les filles et les garçons sont obligés d'être ensemble. En dehors de la fratrie, en dehors évidemment de la question familiale, des cousins, enfin voilà. Mais là, c'est un temps long, hein. Une journée, c'est long. 5 jours par semaine, ou 4 jours et demi, 4 jours, c'est long aussi. Et c'est un lieu où, de fait, ils sont enfermés ensemble, que ce soit dans la classe, dans la cour de récréation, ce qui n'arrivera plus après, hein, ce qui arrive non plus très peu dans l'espace hors scolaire. Alors, en périscolaire, il y a le centre de loisirs, etc., mais on n'est pas du tout sur les mêmes approches en termes relationnels et en termes de captivité. Il y a aussi la question des autorités de compétence, la question de l'écoute, de la construction aussi à l'école républicaine d'une société hein, ensemble. Donc il y a un cadre qui est extrêmement important. Quand on va prendre la question du loisir, que moi j'ai beaucoup étudié, on va se rendre compte qu'en fait le loisir est très peu mixte hein, et très vite. D'ailleurs, à partir de l'âge élémentaire, que ça soit par exemple, dans la pratique sportive, en vrai, il n'y a pas de mixité dans la pratique sportive. Il y a soit des équipes masculines, soit des équipes féminines très vite. Pas de jeu ensemble, en fait, hein, vraiment transpirer, jouer ensemble, discuter aussi ensemble. Les écoles de musique, ok, mais il y a des instruments filles, des instruments garçons. Enfin, voilà, moi, c'est tout le travail que j'ai observé. Et donc, en fait, l'enjeu, il est quand même penser la relation fille-garçon de manière égalitaire et de permettre d'avoir un débat aussi, hein, et aussi probablement de s'exprimer des formes de conflits qui sont liées à ce qu'on appelle ces stéréotypes finalement, hein, cette identité d'appartenance, de pouvoir s'affirmer, de développer un esprit critique. Donc, je pense que c'est un enjeu pour moi, c'est l'espace essentiel, c'est pas le seul, mais c'est un des espaces, en tout cas, de construction sociétale de la relation. En dehors de la question familiale, hein, ou de la question propre, de sa propre question identitaire, et des réseaux, etc., l'espace public, c'est un enjeu collectif, l'école, hein, voilà.
Tu dis que tu es plutôt face à des élèves d'élémentaire et de collège. Comment est-ce que tu les vois, ces stéréotypes, par rapport à ces élèves? Qu'est-ce qu'ils montrent de ces stéréotypes, eux, en tant que personnes, en fait?
Alors déjà, les stéréotypes de. Alors déjà dans le genre, il y a deux niveaux. Hein. Il y a donc les stéréotypes de sexe, dont on va parler là. Et il y a la question qu'on appelle, qui est plus ténue, hein, qui est la question centrale, qui est en fait la hiérarchie. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir distingué, finalement, on va faire une forme d'inégale valeur. Hein, à la fois en termes de représentation sociale hein, des garçons dans leur entièreté, mais aussi par rapport aux filles, la question de la force, etc. Donc. Et c'est ce qu'on appelle le sexisme en vrai, hein, et qui est le terreau pour moi aussi de l'homophobie, des LGBTQI-phobies, etc. Bon, bref. Donc en fait, comment ça se joue? Ça se joue d'abord par, pas bizarrement, mais par quelque chose qui persiste, qui est cette question de la tenue vestimentaire, en fait, hein, du vêtement physique, hein, les distinctions filles-garçons. Elle continue à se faire, et d'ailleurs dans la société aussi femmes-hommes, hein, puisqu'il y a un continuum de cette histoire-là, par des distinctions de vêtements physiques, des espèces de codes en fait, hein, vestimentaires, qui d'ailleurs s'appliquent aux filles. Ça, c'est intéressant à voir aussi, c'est-à-dire que quand on demande aux jeunes bah, comment tu distingues, comment tu sais qu'en face de toi, tu as une fille ou un garçon, donc c'est quoi la tenue vestimentaire d'une fille? Donc là, on va avoir tous les attributs qu'on connaît, qui sont des attributs que j'appelle moi de décoration, hein. C'est-à-dire ce sont des corps au pluriel qui décorent des espaces. Donc la question de la robe, du sac à main, des bracelets, du vernis à ongles, enfin toute cette accessoirisation des filles, hein, déjà très petites. Et puis, ce qui est intéressant à voir, c'est la complexité, en fait, dans la tenue vestimentaire masculine, hein, du garçon, où là, c'est plus difficile à définir. C'est-à-dire qu'on va essayer, hein, les enfants vont dire, oui, mais un garçon, ça a les cheveux courts. OK, bon, il peut y avoir, hein, des filles qui ont les cheveux courts, et pourtant, on va la distinguer en tant que fille. Donc là, on parle des corps qui ne sont pas encore sexués, hein, voilà, mais même plus tard, hein, il peut y avoir des corps sexués, mais qui sont invisibles à la sexuation pour X raisons. Et donc, ça porte un pantalon, oui, mais bon, les filles portent des pantalons aussi. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir très vite, l'uniformisation aussi, en tant qu'uniforme d'ailleurs vestimentaire des corps sociaux, hein, à travers la norme. Et on va vite se rendre compte que finalement, ben, un garçon, un homme plus tard, un jeune homme, c'est celui qui ne porte pas d'attributs féminins, justement. C'est-à-dire qu'il ne porte pas de bracelets, de roses, c'est très vite hein, dans les verbatims d'ailleurs, qui portent pas de maquillage, quand même de manière assez ténue, hein, en tout cas en France, malgré cette question de la perméabilité des identités, en fait, c'est pas encore très visible dans des espaces scolaires. Ça l'est peut-être beaucoup plus dans la vie du dehors, je n'en sais rien. En tout cas, là, c'est pas quelque chose, voilà, qui est flagrant, hein, cette possibilité de diversité vestimentaire, ne serait-ce que ça. Et donc cet interdit en fait au monde des filles pour les garçons, c'est celui aussi qui va être sur la question des jeux, hein, les jeux de filles, les jeux de garçons, voilà. Et je vais entendre en fait dans les verbatims, puisque ça va se traduire par un vêtement social, hein, c'est-à-dire une posture, hein, une définition aussi de la place sociale de chacun et chacune, par exemple, oui, mais moi je risque pas d'aller jouer avec les filles, sinon j'ai peur d'être traitée de fille. Et cette question de déchoir ou de la honte pour les garçons d'être dans l'espace du monde social, encore une fois stéréotypé, enfin en tout cas comme il est représenté les filles, eh bien c'est ça qu'il va falloir résoudre en fait. Et c'est comme ça que je le perçois moi, c'est-à-dire je le vois dans une quotidienneté. Et je rappelle aussi que pour faire non-mixité, il suffit que les garçons entre eux s'organisent et disent je ne te veux pas à mon jeu, hein, je ne te prends pas, je t'empêche d'être avec moi pour que les filles se retrouvent entre elles. Et donc, il y a ce double processus aussi que, en même temps, ils ne veulent pas, parce que ça se traduit très vite par aussi, par exemple, sur un jeu sportif comme le foot, les filles sont nulles au foot, hein, c'est quelque chose qui est verbalisé, hein, à la fois sociétalement, mais forcément à l'école. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la question de nul, hein, c'est ce qui, en miroir, s'oppose à la force des garçons, qui n'est pas ici la mise en scène d'une force physique, mais d'une force en termes de capacibilité. Hein. On ne dit pas tu es faible, on dit tu es nul. Et ça, c'est très important. C'est des choses que je vais travailler avec eux, hein, en tout cas que j'ai bien conceptualisé ou sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi. Le miroir, la force et la décoration. Hein. Tu es belle, tu es fort. Qu'est-ce que ça cache dans l'organisation sociétale aussi d'un espace comme la cour de récréation? Et donc, voilà comment ils se traduisent, hein, les stéréotypes, déjà à la fois par un vêtement, encore une fois, un vêtement physique, puis un vêtement social, qui va d'ailleurs être aussi le terreau du harcèlement et des violences. Hein. Dans le même sens, on va retrouver les violences sur le corps pour les filles et des violences sur la masculinité. En fait, qu'est-ce qu'être un vrai garçon, hein? Donc, une espèce de performance, de rattrapage finalement des garçons dans un espace sociétal viril, voilà, pour ne pas perdre finalement cette identité normée.
Alors là, tu nous expliques ce que tu as observé et étudié, mais pour toi, dans un monde idéal, quelle place tu voudrais qu'elles prennent enfin, qu'ils prennent ces stéréotypes de genre ou qu'ils ne prennent plus peut-être à l'école?
Bah pour moi, j'ai l'habitude de le dire, c'est qu'en fait, pour faire égalité, il faut pas être neutre, en fait. En fait, pour moi, ce qui peut et ce qui change d'ailleurs immédiatement la relation, hein, fille-garçon, c'est le fait que les adultes, en fait, soient en capacité de travailler ce qu'est être à égalité. Hein, et comment on met ce qu'on appelle un cadre émancipateur, hein, qui n'est en fait, que ça, hein, peut-être aussi l'histoire de l'école, en tout cas, et qui centre cette question-là comme une question qui dit beaucoup de toutes les autres questions, en vrai, parce que la question de 52% d'une population et de 48% d'une population, c'est ce qui représente le corps social des filles et des femmes, elles sont 52%. et les garçons 48%, enfin identifiés de manière binaire, hein. Ça aussi c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas dans la massification, encore une fois, de je repère des filles et de je repère des garçons, et des sexes biologiques aussi, hein, de naissance en tout cas, filles-garçons, c'est accepter, c'est consentir collectivement que cette question de l'égalité, finalement, bon, ça soit une question comme une autre, ou peut-être pas une question centrale, ça dit quand même beaucoup de notre capacité à être égalité entre êtres humains dans toutes les autres questions, hein. Parce que se joue à ce moment-là l'acceptation, en fait, d'une norme qui prend le pas sur nos valeurs, hein, c'est ça la vérité, en fait, hein, et qui aussi prend le pas sur les valeurs qu'on transmet à l'école, hein, parce que les enfants savent très bien ce qu'est être à égalité, peuvent définir des notions de droit, par exemple, hein, c'est aussi le renoncement à des droits dans une société, hein, c'est-à-dire le fait que, d'ailleurs, sur deux grandes notions, le droit et la liberté. Hein, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les filles ne sont pas à égale liberté, hein, avec les garçons, et ce qui va conditionner une liberté dans une société, c'est-à-dire la possibilité de choisir, en fait. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie d'être ça? Est-ce que j'ai envie de porter ça? Est-ce que voilà, ça, c'est une vraie expression d'une liberté, hein. Eh bien, c'est la capacité à être dans une société égalitaire. Parce que la liberté, elle peut s'exprimer parce que chacun et chacune d'entre nous peut rappeler le droit, quoi. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit de proposer mon jeu, j'ai le droit de faire sujet, et que entre j'ai le droit et je veux faire quelque chose, il y a est-ce que je peux le faire? Et je peux le faire, c'est une notion, la notion de pouvoir, et la notion de pouvoir, c'est la notion centrale de la question du féminisme et de la domination, hein. J'exerce un pouvoir, je t'empêche, je t'interdis, je te pousse, je t'insulte, je te dis non, je te disqualifie. Mais c'est aussi la notion de rendre possible. Et pour moi, c'est là, en fait, que c'est l'intérêt collectif, c'est de partager ce sujet-là ensemble, de partager une approche aussi, c'est-à-dire que faire égalité, encore une fois, c'est pas une répartition équitable de l'espace, c'est faire relation, en fait. Hein. Admettre, enfin, consentir aussi que c'est probablement la seule hypothèse qu'on peut avoir ensemble, c'est que c'est l'absence de relation dans ces espaces-là, et en particulier en l'enfance, mais pas uniquement, en grandissant, hein, pendant ces années-là, entre l'enfance et l'adolescence, qui fait relation violente plus tard, parce que ce qui est problématique aussi, c'est la question des violences, hein, qui sont aussi dans un statut totalement inégalitaire, hein, c'est-à-dire que c'est du 52-48 qui passe du 90-10 au 90-10 en termes d'agresseurs, c'est-à-dire les femmes sont survictimes, les filles dans l'inceste aussi, hein. C'est-à-dire le fait d'être fille et d'être femme, c'est une vulnérabilité structurelle aux violences, hein, c'est certain, et la construction des agresseurs, parce que qui agresse aussi, ce sont plus de 80 et par 90% des garçons ou des hommes. Donc ça, c'est important de le comprendre. La relation fille-garçon, elle dit quelque chose de la relation fille-fille, garçon-garçon, petit-grand, racisé, voilà. Enfin, c'est toute la question du handicap aussi, hein, parce que quand on met en scène finalement la force du côté des garçons dans ce que j'ai essayé d'expliquer, la force en termes de capacité, mais aussi de mise en scène de la force physique, hein. Ben finalement, on va exclure, oui, une grande, quasiment toutes les filles, mais aussi tous les autres. Et tous les autres, il y a beaucoup de garçons aussi, hein, voilà. Donc, je pense que une société, enfin, pas utopiste, mais une école peut-être égalitaire, c'est une école qui centre son questionnement sur la question égalitaire. Et juste, je finirai là-dessus parce que faut jamais oublier que être à égalité, c'est d'abord une expérience vécue, hein. On n'est pas égalité à soi-même. Et que dans la quotidienneté, c'est bien voir, ben encore une fois, l'égale valeur dans le regard de l'autre aussi, en tout cas la réhabilitation d'un droit. Ce sont des questions centrales, hein, sur la question des femmes aussi. Il y a la question des violences, mais il y a la question de la citoyenneté, hein, d'être en capacité de faire citoyenneté, c'est-à-dire de faire sujet, hein, d'une société, parce que dedans, ben, votre parole est enfermée, elle est confidentialisée, hein. C'est bien dehors l'enjeu, hein, l'enjeu sociétal par excellence pour moi, c'est le dehors. Le dehors de tout, hein. C'est aussi le dehors de la classe, le dehors, voilà, de la cour de ré... Tout se fait dehors à la cour de récréation. C'est les perméabilités du dedans-dehors, c'est un dehors collectif aussi, retravaillé ensemble. Donc, c'est vivre cette expérience-là et ne pas jouer ensemble, ne pas manger ensemble, ne pas rire ensemble, puisque Le constat, c'est quand même la non-mixité, hein, partout où je vais, moi. C'est-à-dire que c'est anecdotique. C'est la question de l'amitié, par exemple. Alors, une notion hyper, hyper riche humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'amitié fille-garçon, ça soit anecdotique, en fait, ça soit compliqué aussi, hein. Qu'est-ce qu'on donne à nos générations d'enfants par rapport à cette question-là? C'est ce qu'on appelle les anniversaires non mixtes en CE2, quoi. Moi, par exemple, on me pose cette question-là. On me dit, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai dit déjà, interrogez votre enfant, demandez-lui pourquoi, comment c'est possible qu'elle fête son anniversaire sans avoir aucun garçon ou qu'il fête son anniversaire sans avoir aucune fille à 8 ans, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, il faut l'interroger avec les enfants. Parce qu'en fait, eux, ils sont prêts. Ils sont prêts à la relation.
Et c'est ultra intéressant ce que tu dis, tu soulèves beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, il y a vraiment une chose que je retiens et qui m'a vraiment le plus touchée, c'est j'ai l'impression que tu me dis que les enfants savent ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est égal ou non, mais que c'est la mise en pratique qui est complexe et la manière dont on les laisse mettre en pratique. Ça, je trouve ça super intéressant parce que je te rejoins, les enfants savent.
Tout à fait, tout à fait. D'abord parce que l'école les éduque très bien. Enfin, ça, il faut le redire, hein. Moi, encore une fois, dans les débats en classe, si vous posez la question, c'est quoi d'après toi être à égalité, vous allez toujours trouver, et assez vite d'ailleurs, des enfants, un enfant, une enfant qui va dire, c'est avoir les mêmes droits, madame. C'est très important parce que la notion de droit, c'est celle qui est centrale, hein. Parce que être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. C'est rien de plus, rien de moins que ça. Et donc, à partir de là, on va tirer toutes cette question-là, ben, quand je vais entendre, ah, mais nous, madame, les garçons qui disent, oh, mais nous, madame, de temps en temps, on accepte les filles. Je vais dire, ben, mon grand, tu peux pas dire ça. On a dit que c'était le même droit. Tu n'as pas à les accepter. Elles ont le droit d'être là. Donc, tu dois t'arranger avec ça. Et tout ça développe aussi un esprit critique, une forme de penser, cette question-là de manière différente, en fait. Et c'est vrai que, c'est pas, l'erreur, c'est de penser que c'est quelque chose de naturel, par exemple. La non-mixité, c'est pas un non-message pour les enfants. Ça n'est pas naturel, c'est un projet sociétal aussi, hein. Ce qui veut dire que ça se renverse, parce que sinon, c'est ce que j'explique, par exemple, sur la démonstration qui, pour moi, en tout cas, est très lumineuse, en tout cas, qui explique bien cette question-là, qui est la non-mixité aux toilettes, hein, où on voit que c'est un projet sociétal, mais qui vient pas de la préhistoire, qui vient de chaque arrivée de cohorte d'enfants, en fait, qui est produit sociétalement, alors de manière consciente ou inconsciente, je n'en sais rien, mais en tout cas, si on ne l'interroge pas, en fait, on ne résoudra jamais ces questions-là. Voilà. Et c'est pareil, quand vous instaurez la mixité aux toilettes, les enfants, ils n'ont aucun problème, en fait, pour l'accepter. Aucun.
Alors là, on a parlé de tout ce qui est aspect théorique, c'était super intéressant, donc merci. J'aimerais maintenant qu'on, si tu veux bien nous expliquer, bah, niveau pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans une école?
Alors, d'abord, on a développé une méthode de travail qui est une méthode immersive. Parce qu'en fait, ce qui est très important aussi, c'est de se caler à la quotidienneté de la vie d'une école. Comment ça se passe, comment s'organise le service à la réfectoire, comment s'organise la récréation. Enfin, tu sais que tu peux avoir des écoles où, voilà, on ne fait pas sortir tous les enfants en même temps, par exemple. Voilà, ou qui intervient sur ce qu'on appelle la grande récréation, hein, celle qui est d'ailleurs une récréation extrêmement intéressante, hein, pour travailler la relation fille-garçon, c'est bien celle-là aussi, parce qu'il y a 2 heures de récréation, parce qu'il faut s'organiser, parce que aussi, c'est parfois ce sont des compétences professionnelles, l'animation, animée. Et surveiller ou co-veiller une cour, c'est pas tout à fait pareil, hein. Donc, on peut travailler aussi sur des médias, enfin des contenus. Donc, en fait, nous, quand on arrive, on va d'abord rencontrer un espace à vivre, un espace à jouer, et puis on va rencontrer les enfants. Voilà. Donc, on va aller en classe et on va travailler avec eux ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'on va leur demander c'est quoi d'après eux être à égalité. Est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons? Ça, c'est les deux questions centrales en fait qu'on va travailler dans les classes. Et ils vont parler de leur cours. C'est pour ça qu'on voit aussi que l'envie de relation, en tout cas, la manière dont s'organise cet espace n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Et puis, on entend aussi là ceux qui prennent la place, entendent ce que les autres ont à dire aussi sur cette question-là, entendent qu'ils ont demandé, qu'on leur a refusé aussi un droit, qu'ils aimeraient bien, voilà. Donc, parce que si on n'interroge pas, ben on peut aussi, c'est comme chacun et chacune d'entre nous, vivre par habitude, en fait. Hein? On entend aussi des choses plus subtiles, on entend aussi que ben, faire tout le temps la même chose, même quand on prend la place, quand on est ce grand garçon, de ces grands garçons, parce qu'évidemment c'est très peu d'enfants finalement qu'occupent cet espace de cours, ben, que parfois on aimerait bien faire autre chose aussi, mais que c'est difficile. Hein? Moi c'est ce que j'appelle trahir le foot, trahir le foot c'est très très dur. Hein? Et on va donc discuter ensemble. Ensuite, on va leur demander on utilise plusieurs outils. On peut utiliser, par exemple, le débat mouvant. On peut utiliser le dessin. Le dessin, c'est super bien. Dessine-moi ta cour, où es-tu? Après, c'est une méthodologie de travail qui nous permet aussi de comprendre, par exemple, le dessin, c'est bien parce que c'est un des seuls outils, en fait, où on s'exprime de manière confidentielle et individuelle. D'accord? C'est dans le débat collectif, on sait bien que c'est difficile. Et nous, on ne peut pas voir enfant par enfant. Hein, donc là, on va dire quelque chose de sa posture à la cour de récréation, de avec qui on est, comment on se déplace, là où il y a beaucoup de garçons, là où il y aurait éventuellement beaucoup de filles, hein, des espaces qui n'existent pas en vrai, hein, ou à part aux toilettes. Et puis le vocabulaire qu'on utilise. Parce que ça, c'est très intéressant. Par exemple, ça nous a permis de nous rendre compte que ce fameux terrain de foot, ce n'est pas forcément un terrain de foot qui est dessiné avec des cages, etc. C'est parce que il s'y joue le foot. Et que si moi, dans mon espace, en fait, j'ai pas un terrain de foot, mais que tous les enfants sur leur dessin l'appellent le terrain de foot, ça veut dire qu'il a été prescrit comme ça. Et qu'il va falloir qu'on travaille sur dévoyer du vocabulaire aussi. C'est-à-dire, on n'est pas sur un terrain de foot, on est sur un terrain de jeu collectif, par exemple. Hein? Et là, ça change puisqu'on va pouvoir à ce moment-là tirer le fil de qui joue avec qui et qui décide du jeu. Parce qu'un jeu collectif, ça s'organise sur un espace de jeu collectif. Voilà, en fait, c'est toutes ces subtilités-là qu'on va travailler. Alors après, ils vont apprendre à nous connaître, on va être à la cour de récréation, ils vont revenir nous voir, etc. Et puis, on va revenir dans un deuxième temps, où on va faire ce qu'on appelle des balades sensibles de cours. C'est-à-dire que là, on va être immergé dans l'espace. Alors, soit, entre-temps, on va leur avoir demandé, ben, tu vas remplir une petite mission par binôme, mixte, tu vas observer ta cour. Donc, il y a des classes qui observent où sont les filles, où sont les garçons dans les espaces, par exemple. Il y en a qui regardent à quoi on joue. C'est intéressant à quoi on joue aussi, hein, à quoi jouent les autres. Il y en a qui se posent la question si du bruit, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est bruyant, cet espace-là, dans la cour. La question de l'esthétique aussi. J'aime pas, c'est beau, c'est pas beau. Voilà, la question de l'esthétique, des activités qu'on pourrait y faire. Et puis après, on va rediscuter encore in situ. Bon, ok, on est là en face de l'espace. Est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'on avait demandé à regarder? Qu'est-ce que tu imagines aussi comme espace pour faire relation fille-garçon? Et puis après, on va, avec toute cette matière-là, faire ce qu'on appelle des propositions d'expérimentation. Nous, la chance qu'on a, c'est que depuis le début, moi, j'ai demandé d'avoir des missions longues, enfin longues relativement, entre 4 et 6 mois, hein, pour poser un diagnostic, parce qu'il y a une temporalité aussi. Dans l'école, il y a les vacances, il y a une temporalité saisonnière aussi, hein, qui est importante. Et on va proposer aux équipes éducatives, voilà, aux adultes de la cour, et aussi parfois hors cour, hein, par exemple les services techniques d'une mairie, de préfigurer les espaces sous forme d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, nous, le diagnostic qu'on fait, c'est celui-là. Avec les enfants, on a vu telle et telle chose. On pense que c'est possible de créer de la mixité ou des espaces à vivre différents en les préfigurant de telle et telle manière. On va être grossièrement sur trois types d'espaces. Hein, c'est assez simple, ce qu'on appelle d'espace calme, parce qu'il y a très, très, très peu d'espace calme dans les cours de récréation. Hein, et la stratégie d'un espace calme, c'est un espace qui est calme, pas au bruit, c'est-à-dire que jamais une cour de récréation, ça ne peut être calme, ça ne peut être silencieux, ce qui est normal, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir du calme, parce qu'on ressent du calme parce que son corps n'est pas percuté, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de recevoir un ballon, on n'a pas peur que quelqu'un arrive en courant et nous tombe dessus, par exemple, hein? Donc là, on va travailler une stratégie. Parfois aussi, un espace, il peut être calme parce que
Il est enherbé, par exemple, ou le fait d'être sous un arbre. Voilà, on travaille aussi des arbres à palabres, des choses comme ça. On va avoir un espace qu'on appelle intermédiaire, qui sont ces espaces d'auto-organisation dans la relation, qui peuvent être des grands groupes aussi. Ça s'appelle les espaces de table, de jeux de société, voilà, des espaces d'échanges, en fait, divers. Ça peut être aussi des jeux avec des tracés au sol un peu alternatifs, voilà, où on va se retrouver. Et puis ce fameux jeu, un espace de jeu collectif, mais où là, on va essayer de résoudre la question de qui peut jouer et à quoi on joue, avec des stratégies. Et donc, on va tout de suite préfigurer les espaces et les enfants vont vivre pendant une semaine ou parfois plus longtemps, en fonction des équipes, ces espaces-là, transformés. Mais transformés de manière en ce que j'appelle le home staging de cours, c'est-à-dire transformés avec ce qu'on a sous la main. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est s'en rendre compte que, en fait, il faut mettre en œuvre la capacité d'agir immédiate. Et en fait, on a toujours capacité d'agir immédiatement sur cette question-là. Et surtout, il faut que ça soit durable. Donc, et ça peut être durable avec de l'éphémère. Donc ça aussi, voilà, c'est une question qu'on a travaillée. Et parce qu'il y a tout le volet, en fait, ça tu l'as compris, de mobilisation de l'intelligence professionnelle. D'accord? Donc on peut faire des espaces, si on ne les anime pas de manière égalitaire, ils ne seront pas égalitaires. Voilà. C'est-à-dire que tu peux mettre un terrain de jeu collectif, comme on a dit, s'il s'y fait que foot, il s'y fera que foot. Derrière, il faut vraiment impulser, rendre possible, rendre possible. Et dont l'objectif partagé, c'est la relation filles-garçons. C'est-à-dire des endroits où visuellement, on va réunir des filles et des garçons pour être ensemble. Avec toutes ces stratégies, et notamment une qui est très intéressante, qu'on travaille beaucoup, qui est le dedans-dehors. C'est-à-dire tout ce qui se faisait dedans, ça va se faire dehors. Parce que souvent, on va confidentialiser les activités dites de filles. Donc là, c'est les rendre invisibles aussi à l'espace sociétal, mais c'est facile à comprendre et les enfants le savent. Hein. Ça ne les légitime pas. Et puis, voilà, aussi légitimer les envies, les besoins des filles, sans jugement, si elles veulent faire de la corde à sauter, des perles, etc. Ben voilà, en fait, hein, c'est leur jeu, c'est ce qu'elles ont à proposer, elles. Parce que souvent, on dit les petits jeux de filles, donc on les a. Non seulement on a un jugement de valeur, on dit qu'ils sont petits, hein, c'est le vocabulaire qu'on utilise, on l'entend, un hein, petit jeu de filles, mais en plus, on pense que comme ils sont petits, ils vont s'auto-organiser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déterminer un espace. Et souvent, on ne met pas d'adultes pour animer les jeux des filles, hein, et donc du coup, ça ne les légitime pas aux yeux des enfants, et en particulier aux yeux des garçons. Et donc, quand tu fais la salle, parce que moi j'ai vu avec eux, qu'est-ce qui se fait à ta quoi? Mais on fait perle, on fait danse, mais où? Je le vois pas. Mais dans la salle, madame, dans la salle, dans la salle. Mais dans la salle, en fait, tu enfermes les enfants, ça te rend pas visible si tu veux aux yeux des autres, et ça empêche les garçons de venir. Parce que, en fait, c'est déjà difficile d'être perméable au monde des filles symboliquement, mais si en plus il faut que tu ailles t'enfermer dans une salle, tu vois, fermer la porte, enfin voilà, ça va pas. Donc en fait, on va externaliser tout ça. Et on va dire, par principe, parce que partager, c'est laisser la place aussi. Hein. C'est très important, ça. C'est avoir un espace de négociation égalitaire. J'ai le droit, t'as le droit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ah, ben, écoute, ça va falloir qu'on se débrouille, hein, tous les deux. Mais c'est aussi dire, ben, OK, c'est vrai, donc je te laisse la place. C'est renoncer aussi à jouer à ce qu'on veut à ce moment-là et avec qui on veut. C'est aussi ça. Hein. Donc, on va réinjecter dans l'espace de cours des espaces culturels, des espaces plutôt identifiés comme filles, finalement. Et puis, on va partir du principe que s'il fait beau pour taper dans un ballon, il fait beau pour faire perle dehors. Et en même temps, on va élaborer une stratégie qui est très intéressante, qui est la posture adulte à l'espace du dehors, puisque quand tu es dehors, tu rayonnes beaucoup plus loin. On te voit de loin, tu vois. Et on se dit, ah, mais tiens, Jérémy, il est sur l'espace calme, je vais y aller, on ne pourra pas me dire dégage, je te veux pas, ou ça va être bruyant, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est pareil sur les espaces de jeu collectif. En fait, l'adulte va être là pour garantir finalement le jeu ensemble, pour le co-veiller, le surveiller, parfois l'animer. Et quand on aura fait voilà, ces semaines d'expérimentation, on va à la fois voir tout de suite, encore une fois, c'est une expérience vécue, donc on va entendre les rires, voir comment ça se passe, on va relever ensemble. S'il y a moins d'incidents, par exemple, tu vois, s'il y a eu moins de punitions aussi, hein, parce que ça aussi, c'est important, la question de la tranquillité de l'espace, pas au sens où la relation fille-garçon doit faire apaisement, mais où voilà, chacun et chacune trouve son égale valeur à l'espace, fait ce dont il a envie, bah, ça apaise aussi une cour. Parce que c'est aussi beaucoup de frustration et de souffrance, hein, cette question de je peux pas, on m'interdit, on me crie dessus, on me pousse. Hein, c'est pas dans la tête des adultes, ça, c'est les enfants qui vont l'exprimer. Donc, et puis on va lever des freins. Parce que souvent, on l'a dit toutes les deux, on pense que c'est pas possible. On pense que ça va pas bien se passer. On pense que c'est compliqué. Et de le faire ensemble, ok, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Il y a des choses effectivement qui sont peut-être plus compliquées, hein, sortir du matériel ou avoir des espaces de négociation entre des petites et des grandes récréations. On a aussi des milieux professionnels qui sont différents, qui abordent les questions de manière différente. Hein, consentir que bah, utiliser une récréation 2 heures, l'utiliser avant, après l'école, parfois le mercredi, parfois pendant les vacances scolaires, hein, en fonction des territoires, bah, c'est différent qu'une petite récréation et ça doit être différent. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas commun, mais l'usage est différent. Et que on puisse sortir les crayons entre midi et deux et pas les sortir sur 10 minutes, on peut le comprendre. Du matériel aussi, voilà, qui peut être des cerceaux, des sacs de jeu, etc. Du jeu de société, bon, on comprend qu'en 10 minutes, le temps de le sortir, hein, le re-ranger, ok. Mais c'est pas grave. On le mettra entre midi et deux, les enfants le savent. Et donc, du coup, on voit si ça se range, si j'ai ce qu'il faut sur place, sur cours pour sortir, c'est quoi la manute, voilà. Enfin, ouais, tu vois un peu tout ça, quoi.
Oui, merci. Et c'est joli ce que tu dis parce que tu nous dis en fait que c'est faisable sans beaucoup de matériel en tant que tel. Parfois, il y a des projets comme ça d'école où on a l'impression que ça demande, là, ça demande du travail, mais où on a l'impression que ça demande beaucoup d'argent. Mais là, dans ce que j'entends, j'ai presque l'impression qu'on peut réunir ce qu'on a déjà niveau matériel pour créer un espace où les enfants se rencontrent.
Oui, tout à fait. Et puis, tu vois, c'est souvent dévoyer un tracé au sol. Ça ne demande pas d'argent, un tracé au sol. Changer le visuel d'un espace de jeu collectif, ça dit beaucoup sur la capacité aussi à jouer à autre chose, hein, ou à jouer autrement. Moi, j'ai travaillé sur tout type de projet. Des projets où il y avait effectivement même pas de projet d'achat de matériel, par exemple. Tu vois? Et sur des projets où il y avait, je ne sais pas, peut-être 400 000 euros pour végétaliser l'espace de cours. Mais moi, je n'étais pas, voilà, c'était, enfin, j'exagère, je ne sais même pas combien ça coûte, mais voilà, où tu avais un projet de végétalisation, etc. Mais cette question-là, la question égalitaire, elle ne se dissout pas dans le végétal. C'est une question à part. Mais elle peut poser un diagnostic dans lequel on va asseoir, on va se servir. En fait, le végétal va être un outil pour nous de transformer les espaces relationnels. Tu vois, on travaille beaucoup sur la forme des assises, par exemple. Est-ce qu'il y a des espaces à la cour de création où on peut s'asseoir hyper nombreux et nombreuses? Parce que si la relation fille-garçon, elle est difficile dans sa duel, dans son binôme, dans sa relation duel, une fille, un garçon, parce que est-ce qu'ils sont amis, le bazar, tout ça, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'ils font ensemble, qui est la grande question, bon, voilà. Et sous l'angle en plus d'une normativité de la relation, donc une fille, un garçon, c'est compliqué, eh bien, on peut travailler sur des filles et des garçons qui se rencontrent. D'accord? Et là, on travaille sur le grand groupe, en fait, sur des espaces de grand groupe. Bon, c'est les tables, hein, ça marche assez bien, mais ça peut être aussi des assises dos à dos. On va travailler aussi sur des questions qui sont, par exemple, des questions d'inclusivité, par exemple, le fait de pouvoir être seul aussi à la cour de récréation. Et tout ça, on va le voir dans la quotidienneté, la question du déplacement en fauteuil, la question, tu vois, des stratégies aussi de déplacement. On va sur les dessins où on va observer qu'on passe pas au centre, qu'on se met sur le côté, etc. Donc nous, on va dessiner des routes, un jeu, voilà, et pour arriver sur des espaces, des choses comme ça, on va vraiment s'adapter. Après, chaque territoire d'école est différent. T'as des très très grandes cours, t'as des toutes petites cours, t'as des cours que tu peux pas végétaliser parce que t'es dans l'ultra-urbain et c'est sur un gymnase de collège. Hein, nous, on a travaillé sur des cours bétonnés dans lesquels on ne pourra jamais planter d'arbres. Hein, donc, il faut travailler aussi ça, comment on va travailler les espaces, les morceler, voilà, enfin les morceler. En faire des espaces à ambiance, justement, il ne faut pas morceler les espaces. Comment on travaille les perméabilités, comment on enlève, par exemple, on n'enferme pas un jeu collectif, parce que si tu l'enfermes, tu mets en scène la performance, tu fais jamais la perméabilité quand le ballon sort, tu t'arrêtes, tu le ramasses, tu reviens sur ton espace. Voilà, on va faire danser à l'extérieur. Et puis, tu as toutes les questions saisonnières, et les questions saisonnières, elles disent qu'une cour de récréation, elle ne peut pas être figée. Elle est forcément modulable, en fait. Voilà. Et souvent, la tendance est de dire, oh là là, il faut que je me protège. Il faut que je me protège du soleil, de la pluie, etc. Mais moi, je dis toujours, bah, écoute, si tu veux une cour comme ça, on fait un préau et ce n'est pas une cour, c'est un préau. Voilà. Donc voilà, on joue avec la saisonnalité aussi. Donc on fait aussi du dehors dedans quand vraiment c'est catastrophique. Comment on travaille l'aménagement de préau aussi pour quand ils sont tous et toutes sous le préau, tu vois? Voilà. Et comment, dès qu'on peut, bah, on externalise et ça veut dire aussi que encore une fois, tu prends aussi du matériel que tu as dedans, sortir des tables et des chaises, c'est possible. Voilà, tu peux préfigurer. En tout cas, tu peux le suréquiper parce que tu vas sur investir cet espace-là, quoi.
Là, moi, je fais un parallèle avec l'école maternelle et donc ce que j'ai vu, moi, des cours de récréation d'enfants de maternelle. Et je voyais beaucoup d'enfants qui étaient perdus dans cet espace en réalité, qui ne savaient pas, parce qu'à l'école, ils arrivaient à une certaine heure, ils étaient pris en charge jusqu'à souvent 10 heures. Et puis après, il y avait un creux dans leur vie, où ils étaient comme expulsés dans cette cour de récréation sans foi ni loi. Et puis, on les récupérait une demi-heure plus tard. Et puis, de nouveau, ils étaient dans une bulle de sécurité où tout était dicté. Et puis, relâchés. Et comme ça, moi, j'étais face à des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui étaient perdus dans cet espace. Et j'ai l'impression qu'ils apprenaient juste en observant comment les autres faisaient et donc reproduisaient.
Oui, tout à fait. Alors déjà, la maternelle, c'est l'apprentissage hein, de la collectivité. Hein. C'est quand même apprendre à manger avec les autres, dormir avec les autres. Enfin, donc cette question de la cour de récréation, qui est d'ailleurs assez effrayante en maternelle, hein, quand tu te penches dessus, sur ce qui s'y passe, effectivement, sur la question des rapports de force, des formes de domination symbolique ou même parfois explicite. Hein, l'idée, c'est de créer un espace de protection affective aussi, hein, qui peut être travaillé aussi avec, alors encore une fois, avec des postes, des présences adultes, en fait, hein, parce que ce qui va être très rassurant, c'est le fait de trouver, en tout cas visuellement, de voir, même si les enfants, pour eux, en fait, ils vivent leur vie, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ça aussi, c'est que on dit oui, mais bon, ils ont le droit de se cacher, ils demandent pas ça, les enfants. Tu vois, par exemple, moi, je travaille sur des cabanes transparentes. Donc, en fait, tu es dans ta cabane, mais toi, la maîtresse, tu vois exactement ce qui se passe dedans. Parce que c'était un problème, les cabanes. Parce que oui, ils m'en voient pas, effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça, les enfants vont le comprendre très vite, c'est que ce qui crée finalement ces questions des violences et qui crée de l'insécurité d'ailleurs, que ça soit un sentiment ou quelque chose de réel, en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où tu te sens insécure et que ça contraint ton corps, tes mobilités, ta liberté, c'est qu'il y a un problème. Tu n'auras pas commencé à chercher si, voilà. C'est l'impunité. C'est ça la vérité. C'est l'impunité, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas punies. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque... Tu sais que si tu fais un truc, tu ne vas pas être puni. C'est d'ailleurs le problème des toilettes, hein. C'est pour ça que c'est des lieux de violence. Tout le monde ne va pas faire des bêtises, d'accord? Enfin bon, on est avec des enfants, si tu veux. Voilà, à un moment donné, le truc, le groupe, il suffit qu'il y en ait un aussi qui impose un peu sa loi dans ces espaces-là, et c'est bon, tu vas suivre, en fait, hein. Donc, ce qu'il faut garantir, c'est qu'il n'y ait pas de lieu d'impunité. Donc, il faut agir immédiatement en disant, bah, écoute, là, non, ça ne va pas. Tu vois, ou par exemple, tu vois, moi, j'ouvre donc les blocs sanitaires au regard, donc ces fameuses cabanes, où tu vois, OK, là, il y a un truc qui ne va pas, il y en a un qui met une baffe, j'en sais rien, oh, je t'ai vu, OK, donc là, il y a un souci, donc je te sors du truc. Parce que c'est ça aussi qui va être important, c'est que pour partager et jouer ensemble, pour être ensemble, pour respecter les règles. Et si tu ne respectes pas les règles, tu es exclu du jeu. Et c'est la seule chose qui peut t'exclure du jeu. Pas que tu sois faible, que tu sois une fille, que tu sois noire. C'est pas ça qui t'exclut du jeu. Tu vois? C'est parce que tu respectes pas les règles. Donc les règles, on les définit ensemble. Les règles, elles sont définies par l'école. Faut pas se battre. Tu vois, moi, par exemple, j'entends, oui, mais nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au foot. Je dis, mais si, t'as le droit. Qu'est-ce qu'on a pas le droit de faire à la cour de récréation? On va se battre. Tu vois, c'est rappeler des choses comme ça, en fait. Et donc, il faut aussi de l'auto-organisation dans la relation. Encore une fois, il faut du dissensus, il faut du conflit, parce que et quand tu rencontres l'autre humanité, tu ne peux pas être copain avec tout le monde. Moi, je leur dis, hein, on vous demande la mixité, c'est pas de l'apaisement, en fait. Hein, c'est aussi, voilà, c'est aussi la négociation, encore une fois. Et c'est justement parce qu'il va y avoir conflit aussi que plus tard, probablement, il n'y aura pas de violence. Hein. C'est-à-dire que ça va être rattrapé. Ok, elle t'a dit non, tu lui as dit non, lui, il veut pas. Non, ça ne le fait pas rire. Tu vois bien qu'il est par terre en train de chialer. Voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut résoudre. D'accord? Mais ça veut dire que l'objectif aussi qu'on a ensemble, c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui est posé, qu'est-ce que ça dit la relation fille-garçon, si c'est par exemple entre une fille et un garçon, mais, et même à la maternelle, d'accord, en termes de place, d'occupation, et comment on le résout ensemble. Mais voilà, est-ce qu'il faut. Après, il y a la question, oui, des outils que tu mets. En fait, c'est une démarche itérative, c'est une démarche que tu interroges. Hein. Il faut observer aussi hein, pour trouver des solutions. Moi, j'ai pas. Chacun a ses métiers. Donc, toi, vous, dans vos métiers, vous êtes formé à des outils, à des choses pour lesquelles finalement cette question-là, elle va devenir l'objet. Moi, j'ai l'habitude de dire, le genre, c'est pas une matière, si tu veux. C'est pas une matière. Voilà, t'es géographe du genre comme moi. C'est-à-dire que ta spécificité, c'est ça. T'as une démarche itérative, scientifique, etc. Dans lequel tu vas appliquer un paradigme. C'est-à-dire, tu vas dire, voilà, c'est cette question-là que je regarde, c'est celle-là que je veux résoudre par hypothèse. Donc par hypothèse, tu as donc c'est voilà, c'est est-ce qu'il y a des jeux de des jouets de filles, des jouets de garçons? Ben non, ok, voilà, ben, voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout ce travail, en fait. Ça fait contenu pédagogique et contenu d'accompagnement, d'enseignement, en fait. Voilà. Mais ça demande aussi une formation, c'est vrai. Ça demande à ce que cette question-là, elle soit construite et comprise ensemble.
Merci. Et est-ce qu'on peut aussi donc parler de cet espace, des toilettes?
Bien sûr, alors après, c'est assez simple, hein, les toilettes, puisque j'ai commencé à l'évoquer. Donc, avant d'expliquer, alors d'abord, en France, en tout cas, les études d'impact, mais je sais qu'en Belgique, vous avez beaucoup travaillé aussi sur cette question-là et que vous avez un programme d'ailleurs. Et donc, en fait, si tu veux, moi, ça fait 2 ans que je travaille, même presque 3 ans, sur un programme national, hein, d'ailleurs, qui est financé par le privé, qui s'est associé finalement les compétences du bureau d'études avec la volonté de fouiller ce sujet-là et de le comprendre. Donc moi, j'ai fait des études d'impact, des études de terrain avec des questionnaires, on a fait des études nationales qui montrent que 8 enfants sur 10 s'empêchent d'aller aux toilettes. D'accord? Donc 8 enfants sur 10. Donc en France, les toilettes sont non mixtes par principe à partir de l'élémentaire, de 6 ans. Et donc de ne pas aller aux toilettes, c'était pas, voilà, c'est pas parce que tu as peur, tu vois, c'était, donc la non mixité ne résout pas cette question-là, au contraire d'ailleurs. Hein. Et donc on a cherché à savoir ce qui se passait et donc on a mis en scène ces questions d'impunité hein, et d'intimité. En fait, il y a deux problèmes, c'est-à-dire que, donc c'est pour ça que moi, depuis 15 ans, je me bats notamment pour qu'on enlève les urinoirs hein, dans les blocs sanitaires des garçons, puisqu'ils vont l'exprimer, ils vont dire qu'ils, enfin, c'est toute cette question de comment c'est possible de pas concevoir la pudeur chez les garçons. Bon, enfin, voilà, ça, tu vois, c'est une forme d'inscrit sociétal. Qu'est-ce qu'être un garçon? Ben, non, je suis désolée, mais en tout cas, ça rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour eux, hein. Voilà. Et aussi parce que l'urinoir ne permet pas ce que l'adulte projette le regard dans le bloc sanitaire. Donc, non seulement ils sont pas à l'intimité, mais en plus, on ne peut pas surveiller. Et comme on ne peut pas surveiller, c'est un lieu d'impunité, c'est un lieu de dégradation, un lieu, voilà, où on joue avec l'eau, où on met du papier partout, etc. Donc, tu vas résoudre beaucoup de questions en concevant cette question-là. Donc, garantir l'intimité, c'est avoir des cabines dans lesquelles tu peux te fermer, où tu es en sécurité, où on ne peut pas regarder par-dessus, par en dessous. Et puis des blocs sanitaires qui, pour le coup, sont largement ouverts au regard, en fait. Nous, c'est ce qu'on travaille, ce qu'on appelle la co-veillance. C'est-à-dire, je sais qu'un adulte peut passer, tourner la tête et me dire qu'est-ce que c'est en train de faire là. Donc, du coup, je vais réfléchir avant de faire ma bêtise. Et ça se voit très vite. Et d'ailleurs, tu peux le voir d'assez loin. Nous, on a des blocs qui sont ouverts sur cour, que tu vois d'assez loin de la cour. Hein. Et tu dis, attends, là, il se passe un truc, tu vois du monde, enfin bref, tu externalises l'eau, enfin, on a travaillé sur plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, même si on ne souhaitait pas faire de toilettes mixtes, on neutralise ce qu'on appelle ces questions-là, impunité et garantir l'intimité. D'accord? Tu peux continuer à faire un côté fille, un côté garçon, bon. Mais quand même, il faut quand même savoir que, pour le coup, c'est ça qu'on doit interroger collectivement et c'est ça que j'interroge, moi, avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille, c'est qui peut penser que les enfants n'ont pas de signifiant par rapport à ça. Qui peut penser que pour eux, ça, pour une petite fille de 6 ans, on parle de 6 ans, mais même plus grand après, ça ne veut rien dire quand on lui dit tu ne peux pas partager un bloc sanitaire avec un garçon de ton âge. Donc ça dit quelque chose, elle, sur sa vulnérabilité hein, sociétale, sur la peur des garçons aussi. Mais ça dit aussi en miroir que les garçons sont potentiellement dangereux. Et tellement ils le sont par rapport aux filles, pas entre eux, bon, d'accord. Ça pose question quand même, tu vois. Et pour moi, ça, c'est la construction d'une agression, d'agresseur. Alors, c'est pas parce que je sais pas, tu auras fait des bêtises aux toilettes quand tu es un garçon que tu vas taper ta copine plus tard, d'accord? Mais il y a un continuum sociétal, c'est-à-dire, il y a une forme d'inscription, en fait. Et ça, c'est très important, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas signifiant. Tu arrives de la maternelle, tu es ensemble, chez toi, tu es ensemble, tu n'as pas d'urinoir. Moi, je pose la question, hein, dans le bouquin, je dis de manière humoristique, mais quand même, quoi, qui dit est-ce que s'asseoir, c'est des choix pour les garçons? Tu crées aussi le fait de faire pipi debout. Quand tu apprends à faire pipi, c'est dans le pot. Voilà. Si Donc, c'est des images sociétales qu'on doit interroger ensemble. Ces espèces de tabous, de constructions sociales, comme la question de la robe chez les garçons, en fait. On n'est pas sur une question, oui, là, là, l'autre. Mais non, mais enfin, quand même, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Cet interdit vestimentaire, c'est pas légal. Il n'y a pas marqué dans la loi. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose qui peut paraître un détail ou qui peut paraître une façade, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi?
Derrière se cache le maintien d'un système de domination, parce que le jour où tu pourras plus distinguer si facilement, tu pourras plus hiérarchiser. Se tient aussi l'inégale valeur, c'est-à-dire qu'attention, voilà, c'est très important que les garçons se tient aussi des questions de pouvoir, tout simple en fait. Il y en a bien qui comprennent, alors peut-être pas chez les enfants, et encore, mais il y en a bien qui comprennent quand même chez les adultes que, encore une fois, partager, c'est renoncer.
Qu'il y a quelque chose à perdre, ouais.
Bien sûr, il y en a qui ont des choses à perdre. Oui. Bah oui.
Pour finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent?
Alors. Oui, je pourrais dire peut-être de consulter le bouquin parce que ça parle vraiment bien. Voilà, en fait, ce que je viens de dire, c'est ce que je raconte dans le livre, dans la quotidienneté. À la fois, il y a un cadre théorique, tous ces enjeux, c'est quoi les stéréotypes, etc., le bazar. C'est émaillé de verbatim d'enfants. Hein, donc, normalement, on doit se retrouver hein, quand on est enseignante sur des espaces scolaires. Et puis, il y a quand même des leviers, il y a quand même des solutions concrètes que je propose, que j'ai peut-être pas eu le temps de développer là. Et après, je crois qu'il faut faire appel à l'intelligence collective et qu'il faut engager cette démarche itérative, c'est-à-dire se questionner, en fait, faire les pas de côté, se dire, mais tiens, là, quand on me propose de penser ça, donc encore une fois, faire égalité, très longtemps on a pensé c'était que les filles jouent au foot. Ben non, c'est pas ça faire égalité en vrai. Voilà. Ça peut y participer, mais c'est probablement pas la centralité de ce qu'on doit faire. Peut-être plus faire danser les garçons, mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, en fait, voilà, il y a de la littérature, il y a des enseignantes qui ont écrit là-dessus, il y a ton podcast, il y a plein de trucs, en fait. Il faut se cultiver sur la question égalitaire. Voilà. Et après, il faut se faire confiance. Il faut tester aussi un petit peu. De toute façon, moi, quand on me demande qu'est-ce qu'on a à y gagner, je peux te dire qu'on n'a rien à y perdre. D'accord? C'est ça qu'il faut se dire. En fait, c'est que si on continue comme ça, on sait ce qu'on perd. Donc, on essaye. On va pas, les gens, enfin, je veux dire, on va pas transformer les enfants, on va pas les rendre fous, on va pas avoir 1 000 problèmes. Voilà, des littératures, les livres jeunesse engagés, voilà, la question des propos de la dictée, de moi, qu'est-ce que je fais dans mon espace aussi de classe pour de ces questions-là? Est-ce que je fais comment j'appelle les espaces, l'espace cuisine ou l'espace, j'en sais rien, voilà, pour pas identifier aussi produire des stéréotypes, l'espace camion, l'espace, voilà, comment je fais pour rendre perméable, pour et puis observer. Moi, je trouve que c'est important de regarder, en fait, hein, parce que la première prise de conscience, c'est celle-là. Est-ce que mes enfants, les enfants, c'est pas les miens, mais est-ce que les enfants, les filles et les garçons jouent ensemble, dînent ensemble, rient ensemble, voilà, partagent ensemble?
C'est ça. Et comme tu dis, parce que ils en ont envie et que c'est vraiment, je pense que c'est un désir de tous et toutes, quoi.
Oui, parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui fait que humainement, on n'ait pas envie de rencontrer l'autre. Après, encore une fois, après, j'ai envie de te dire, même s'ils n'en avaient pas envie, et c'est important cette question-là. Est-ce qu'on peut se la poser aussi en tant qu'adulte, en tant que projet sociétal? Si la question, elle est-ce que, parce que peut-être tous n'en ont pas envie, ou tous n'ont pas conscience qu'ils en ont envie, j'en sais rien, je ne sais pas comment le dire. Mais est-ce que l'école, c'est un espace de changement sociétal ou de production? en fonction en tout cas de la norme de genre, de la production incessante de cette norme en fait. C'est ça la vraie question.
Merci, merci, merci. C'était le 24e épisode de Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Edith Marie-Jules pour cet échange. Je vous conseille son livre « Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants » aux éditions Double Ponctuation. Nous, on se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner à la page Instagram et Facebook. Vous y trouverez toute l'actualité de Maternelle Dégenrée. Pour les petites anecdotes et plein d'autres bons plans, inscrivez-vous à la newsletter. Elle est envoyée chaque dernier lundi du mois. Rendez-vous sur le site internet maternelledégenrée.fr pour vous y inscrire ou contactez-moi par email à l'adresse maternelledégenrée@gmail.com. À bientôt!